Y sí.
בין ארבעים, לא, זה לא אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. המסקנה שבין הארבעים, זהו זה בין השמשות, היא מוטעת, לפי הלכה. כן. אלא, לכיתה ג' vous avez étudié par Rachel, כן? Alors, vous avez vu que la première Mishnah nous donne... Non, la Mishnah ne dit pas Benach Mashot. Non, non, la Mishnah ne dit pas. La Mishnah, Mishnah, c'est à Kohanim, le Trasim, l'Echol Betroumatan. Et on cherche, quand c'est le Erev pour les Kohanim, on trouve que pour les Kohanim, l'Echol Betroumatan, c'est la sortie des étoiles. Et on reporte au Kriyashma. Okay. Mais ça, nous réétudierons notre part. Bon. Alors, ici, le Benach Mashot, Erev Shabbat Benach Mashot, on va lire d'abord la Mishnah, c'est autre chose. 10 choses ont été créées la veille du Shabbat, Ben Hashemashot, c'est-à-dire entre la fin du sixième jour, coucher du soleil, et l'apparition des étoiles du septième jour à la création. C'est-à-dire tout a été créé pendant les 6 jours. Okay. Mais voilà que 10 choses ont été créées dans ce temps qui est Ben Hashemashot, Deshéchetémé Amahasé, Deshéchetémé Bereshit. Et c'est quoi? Pihaaret, la bouche de la terre. La bouche de la terre. Laissez-moi expliquer. Pia Aret, bon, vous apprenez que la terre est une bouche. On dit bien, comment on dit ?
Aben,
on parle de la tête. D'accord. Mais c'est pas celle-là. D'Afrique, c'est pas celle-là. Très bien. Je sais pas comment on dit, pour dire au bord du fleuve, au bord de la mer, en hébreu, comment on dit ? Svataya. Et on dit à la lèvre de la mer. Bon. Vous apprendrez tout ça en hébreu. Alors, Piaaret, c'est lorsque la terre s'est ouverte pour engouffrer Gouffre, Korah et ses adeptes. Et ses chassidim. Okay. Et la Piaaret. Piaaber, c'est littéralement la bouche du puits. Le puits d'eau qui a accompagné Israël dans le désert pendant les 40 ans. C'est le puits de Myriam. Vous apprendrez cela aussi. Pihaton, la bouche de l'ânesse. Quelle ânesse? De Bilam. Très bien. À Keshet. Keshet, c'est l'arc-en-ciel du temps de qui? Noach, après le déluge. Très bien. Haman, la manne qui est tombée dans le désert pendant les 40 ans. Hamaté, le bâton de Moïse avec lequel il a fait les miracles. À Shamir. Alors, Shamir, et ça, il faut que je vous l'explique. Le Shamir, c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le radium. Le radium. Bon. Et alors, ça a disparu, le Shamir en tant que Shamir. Aujourd'hui, le mot de Shamir, si vous allez au marché, c'est une plante qui ressemble à du fenouil, okay, avec lequel on fait la nisette. Mais ça s'appelle le Shamir, ça vient d'un nom arabe. Mais en particulier, il a réapparu au temps du roi Salomon pour la construction du temple. C'était une substance qui se trouvait chez certains insectes et qui était radioactive, qu'on mettait sur les rochers et le rocher, parce qu'on n'avait pas le droit de tailler les rochers avec du fer, avec quoi que ce soit qui soit un métal pour faire des armes. Okay. Bon. Et d'après la description de la Gemara, comment conserver le Shamir? Eh bien, je crois que on peut dire qu'il s'agit de quelque chose d'analogue, en tout cas, à ce qu'on appelle le radium aujourd'hui. Puisqu'on conservait le Shamir dans une gangue de plomb. Et puis, il disparaissait de lui-même. Exactement un peu ce qui se passe dans les matières radioactives. Bon, mais à l'époque, c'était un insecte. Comme vous avez des insectes lumineux, comment on appelle ça? Des lucioles, oui. Alors imaginez une luciole, que ce n'est pas simplement un peu de lumière, mais que c'est vraiment de la radioactivité. Donc, il y a d'ailleurs, encore je crois qu'il existe des animaux dans la mer, la lamproie, je crois que c'est, qui donne des décharges électriques. Bon, c'est quelque chose de beaucoup plus intense. Octave, l'écriture. Amirtav, non, disons, Aktav, c'est les lettres de l'écriture, de l'alphabet. Amirtav, l'écriture. Aluchot, c'est les tables sur lesquelles a été gravé les 10 commandements, qui étaient d'une substance à part. Veyeshomrim, et on ajoute même, certains ajoutent aussi d'autres choses comme Kvuratosh Mazikin. Mazikin, comment je vais vous traduire cela? Ce sont des réalités qui est très difficile à diagnostiquer. On sait de quoi il s'agit, mais avec des mots de la culture contemporaine. Mazikin, ça veut dire des réalités qui causent des dommages. Et Azik, causer un dommage. Okay. Alors vous trouverez des traductions comme les démons. Bon. Mais on peut aussi traduire des microbes. Okay. C'est tout ce qui cause un dommage. Ma. De cela, je vais. Non, par exemple, le virus, je ne sais même pas si c'est un virus, le cancer. Mais enfin, ce qui cause des dommages. Je veux dire, d'une façon générale, on va parler de réalités qui n'étaient expérimentables qu'au temps où il y avait la prophétie. Okay? Au temps où il y avait la révélation. Lorsqu'il y a révélation, tout se dévoile. Et lorsqu'il n'y a pas révélation, on ne peut plus diagnostiquer de quoi il s'agit. Par exemple, on parle des anges. Alors on parle des anges avec beaucoup de compétences, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, puisqu'on ne peut pas expérimenter. Alors toutes ces choses qu'on ne connaît que par la tradition, ça fait partie de ce qu'on appelle Chochmat Hanistar, les choses, la science des choses cachées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le diagnostiquer dans la réalité qui est la nôtre, dans notre temps contemporain. Okay? Mais moi j'avais l'intention cette année d'éclaircir pour vous une seule notion, je sais que vous comprenez bien cela, qu'il y a eu un temps où il y avait révélation vraiment. Et nous sommes dans un temps où nous ne pouvons pas diagnostiquer cela. Nous en avons la trace dans les livres des prophètes. Mais les livres des prophètes seraient illisibles s'il n'y avait pas la mémoire qui les éclaire, qui s'appelle la Torah Shebaalpé. Vous comprenez le problème, okay? Alors de même, dans le temps où il y avait l'événement expérimental de révélation, il n'y avait pas seulement des anges qui se révélaient, il y avait aussi des démons. La Gemara dit, si l'œil humain, qu'est-ce que c'est des démons et des anges, on ne sait pas. Disons, un du côté du bien, l'autre du côté du mal. La Gemara dit, si l'œil humain pouvait voir, il serait affolé de ce qu'il voit. Heureusement, vous ne voyez pas. C'est clair? Bon. Alors, ne cherchez pas à comprendre de quoi il s'agit, on ne voit pas. C'est passé dans le texte que je vous traduis. Okay? Un mazitin, ça veut dire des réalités, je ne sais pas comment vous dire. Quelqu'un attrape une maladie. Et puis, quelqu'un d'autre à côté ne l'a pas attrapé. Bon, qu'est-ce qui a joué? Un mazik. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc. Alors, Kvurato Shel Moshe, la tombe de Moïse, qui n'existe pas. Ve'elo Shel Abraham Avinu, le bélier d'Abraham qui a remplacé Isaac au sacrifice. Des choses qu'on ne comprend pas. Ve'yeshomrim, et certains disent, ça c'est très joli, Af Tzvat Bitzvat Asuya, la première pince qui a été faite par une pince. La première. Une pince, okay? Une tenaille, okay? Qui a été faite par une tenaille. C'est-à-dire l'origine de la technique. Parce que pour faire un outil, il faut un outil. Mais le premier outil qui a été fait par un outil, celui-là, il est spécial. Et on ne parle pas du premier outil qui avait le premier outil, mais le premier outil qui a été fait. Bon, alors je vous donne simplement la définition de l'ensemble de ces choses-là de la façon la plus simple possible. Ça veut dire que ce sont des réalités qui font partie de notre nature, mais qui ne sont pas dans leur essence de l'ordre de la nature. Ça veut dire, par un certain côté, ils font encore partie du temps des six jours, et par un certain côté, ils font déjà partie du temps du septième. Vous voyez, Ben Hashmashot, Erev Shabbat, de Maase Bereshit. Est-ce que c'est clair jusque-là? Par exemple, l'écriture, c'est un mystère. Okay? Comment ça commence? Okay? Ou bien la technique, comment ça commence, etc. Alors oui, des réalités qui sont à la fois naturelles et surnaturelles, et qui sont dans notre monde. Alors, la Mishnah les situe, Erev Shabbat ben Hashem Hashot. Ça n'a pas été créé pendant les six jours du commencement, ça n'a pas été créé pendant le septième du Shabbat, ça a été créé entre les six jours et le Shabbat, et puis ça joue un rôle dans l'histoire humaine. Ça va jusque-là? Bon, or, alors je vais changer de niveau et éclairer ça par rapport à notre problème. Une des explications données par la Kabbalah de l'expression Ben Hashmashot, pourquoi ce crépuscule du soir on l'appelle entre les soleils ? Puisque, littéralement, pshat, ce serait toute la nuit qui devrait s'appeler entre les soleils. C'est clair ? Entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève. Mais comme je vous ai dit, la halakha va adopter cette expression et on l'explique comme ça. Le soleil qui se couche, c'est le soleil qui s'est couché, le shemesh. Le soleil qui se lève, c'est les étoiles. Et nous savons aujourd'hui que les étoiles sont des soleils. Bon, vous avez compris, quoi ? Hein ?
Le soleil est une étoile.
Hein ?
Le soleil est une étoile.
On pourrait dire, comme Victor Hugo, que les étoiles sont des soleils. Non, c'est ça que je veux dire. Non, le soleil est une étoile, ça nous apprend que les étoiles sont des soleils. Et le soleil que nous avons, c'est un tout petit soleil de provisoire de remplacement, toute petite chose. Il y a un verset qui dit que vous verrez bien un jour quand le soleil se lèvera, pas celui-là.
Mais c'est bien que qu'il l'a créé et qu'il l'a...
Indépendamment des soleils. À quoi tu penses ? Non. C'est cela, que la lumière qui a été créée au commencement était cachée, et que nous avons une apparence de lumière. Elle est lumière vraiment, mais rien du tout à côté de ce que... Donc, vous habituez un petit peu à ces choses-là. Je ne vous dis pas ça pour vous affoler, au contraire, pour vous rassurer. Parce que quand ça arrivera, je souhaite que ça arrive de votre temps, vous êtes plus privilégiés que nous, à moins que la traite à métier m'arrive avant, okay, que vous soyez un peu habitués, que c'est normal, tout ça. Vous avez compris. Et alors, il y a un verset qui dit, et qu'on verra bien que la lumière du soleil et la lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière du soleil sera 70 fois ce qu'elle est, et un peu, oui, et que cette lumière du soleil, 70 fois ce qu'elle est, elle pâlira, elle rougira de honte à côté de la vraie lumière qui illuminera Israël. De quoi il s'agit au moment dans les versets, hein? Alors quand ça arrivera, vous saurez qu'il y avait un verset. Tu connais ces versets-là? Dans le rite ashkenaz, on dit le matin, c'est ce « Oh Hadash » là. Non. Et alors, ça c'était donc la lecture habituelle de la halakha, bien que l'expression reste mystérieuse, apparemment. La halakha va établir eh bien, que Ben Hashemashot, c'est l'expression dont on se sert pour dire le crépuscule du soir, entre le coucher du soleil et l'apparition des étoiles. Ça y est, c'est clair, mélangez pas les choses. Okay, bon. Ceci dit, dans l'histoire du monde, telle que nous raconte la Torah, il se passe deux événements importants avec le soleil. Et tout ce dont on nous a dit, on nous a parlé là, de ces 10 choses, sont logés historiquement entre ces deux événements. Le premier soleil, vous connaissez déjà. C'est le soleil de qui? Nachon. Maître Shelach, avant le déluge. Vous vous rappelez, on a étudié ça 4 fois. Okay. Et le deuxième soleil, c'est qui? Le soleil de Nachon, de Josué. Vous voyez? C'est-à-dire, tous les événements de révélation que la Torah nous raconte se passent entre le temps de Maître Shelach et le temps de Josué. C'est clair? Vous savez ce qui s'est passé au temps de Josué? Josué a arrêté le soleil. Oui. Alors il y a deux manifestations avec le soleil. Metushelach, où le soleil s'est levé de l'autre côté, vous vous rappelez? Et Josué, où le soleil s'arrête, parce qu'on avait besoin de la lumière pour finir la guerre pendant toute la journée. Vous vous rappelez de ça? Bon, c'est des événements qu'on ne peut pas comprendre, parce qu'on ne peut pas les expérimenter. Mais vous avez là deux limites. D'ailleurs, quand j'ai étudié en ethnologie, les coutumes des peuplades de l'Amérique centrale, alors j'ai trouvé que tous les ethnologues savent cela, que de l'autre côté de la planète, vous voyez, la map monde, il y a des traditions dans les sociétés primitives, pas d'un jour long, mais d'une nuit longue. C'est-à-dire, de l'autre côté du monde, c'était la nuit pendant le temps. Et alors, on a donné des explications de cela. Comment ça a-t-il pu se passer que le soleil s'est arrêté pendant toute la journée, pendant toute la nuit? Je vais vous dire, C'est pas ça qu'on va étudier. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expérimenter. Par conséquent, gardez ça au niveau d'hypothèse d'explication. La Torah nous a parlé de ces événements, et puis par définition, des événements qui se produisent qu'une fois, eh bien, on ne peut pas en faire la science, parce qu'on ne peut faire la science que d'événements qui se répètent. Vous savez ça, okay ? On ne peut faire la science que de phénomènes. Alors là, ce ne sont pas des phénomènes, ce sont des faits qui se sont passés et dont la signification n'est restée que dans la mémoire. Je vais simplement vous expliquer, en parenthèse, que l'idée que le soleil s'arrête, je veux dire s'arrête, soit immobile, c'est pas une idée invraisemblable. Parce qu'il suffit qu'on se situe au pôle pour qu'on voit le soleil immobile. Et pourtant, elle tourne, comme disait l'autre. Bon, alors vous pouvez prendre comme hypothèse, si vous voulez, que ce jour-là, la Terre a basculé, que la lune des pôles est passée là où était Josué. Et alors le soleil était immobile. Maintenant, que la Terre ait basculé, ça les savants le savent. Et qu'elle a basculé plusieurs fois dans l'histoire. Il y a un indice que je vous donnerai. Vous savez cela. Bon, ce qu'il en reste, c'est que le fait qu'en réalité, ça tourne comme ça, ça tourne pas comme ça. Qu'il y a une espèce de rotation. Bon. Tout simplement, il suffit de savoir qu'on a découvert des gisements de charbon énormes au pôle Nord. Il aurait pu y avoir de gisements de charbon qu'à l'équateur. Qu'est-ce que c'est les gisements de charbon ? C'est la fossilisation de forêts tropicales. Alors qu'est-ce que vont faire des gisements de charbon au pôle ? Donc c'est que peut-être un jour là-bas c'était l'équateur.
C'est vrai que les champs magnétiques aussi se sont inversés.
Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et quand vous serez très familier avec les livres des rois dans le Tanakh, vous verrez qu'il y a des événements où on voit que les points cardinaux changent. Hein ? Les points cardinaux ont changé. Et alors on les appelle plus de la même manière. Il y avait quatre portes dans le temple. On ouvrait celle du nord, et puis voilà qu'un jour il fallait la fermer parce que le nord il passait par l'autre porte. Des choses que on ne peut pas. Des choses qu'on ne peut pas. Ça y est. Oui, les gens du sud qui deviennent les gens du nord, et les gens du nord qui deviennent les gens du sud. Et vous verrez, dans beaucoup de populations juives, vous avez des habitudes culinaires invraisemblables d'après le climat. Vous avez des juifs des pays chauds qui mangent comme si c'était le pôle nord, okay, et des juifs des pays froids qui mangent comme si c'était l'équateur. J'avais compris. Bon, alors je schématise tout cela. Et pour arriver à notre problème, maintenant c'est très clair. Le temps de révélation va du déluge à Josué, entre les deux soleils. Vous voyez, c'est clair ? Et voilà pourquoi, pour la deuxième raison pour laquelle on ramène le temps de Megillat Esther au temps où il aurait dû être, c'est-à-dire au temps de Josué. Et pourquoi on dénomme les villes entourées de murailles, pas au temps de Assuérus, mais au temps de Josué. Oui, c'est-à-dire derrière les connaissances que vous avez déjà eues un peu au sujet de l'importance de la Megillat Esther dans l'économie de l'histoire d'Israël, vous voyez qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Et vous vous habituez un peu maintenant à cela, déjà, depuis le début de l'année. Quand on étudie un texte, il faut savoir que l'essentiel est dit par allusion. Oui ? Beremez. Parce que c'est la mise par écrit d'une tradition orale. Et lorsqu'on a dû mettre par écrit la tradition orale, on a violé un grand principe. Ce qui est par écrit doit rester dans la forme dans laquelle il est par écrit. Ce qui est oral ne doit pas être mis par écrit. Parce que ce qui est oral doit rester vivant et être formulé de génération en génération. Et si vous fixez la formulation d'une génération, ça devient hermétique pour la génération suivante, parce qu'elle devient incapable d'identifier de quoi on a parlé. Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair ? Et on est réduit à des hypothèses. Qu'est-ce que l'auteur de la mise par écrit de cette tradition a voulu dire autant il l'a voulu dire ? Autant il a voulu le dire, son style était évident pour les contemporains. Okay ? Les implications étaient évidentes pour les contemporains. Mais tout de suite, ça devient hermétique pour la génération suivante. Et c'est pourquoi on avait interdit de mettre par écrit la tradition orale. Il y a des raisons historiques pour lesquelles on a violé cette règle. Et vous avez dû les étudier en bibliographie, à propos de la Torah Shebaalpé, je suppose. Il y a deux raisons principales. C'est d'abord la dispersion. Étant donné que le peuple juif s'est dispersé, alors il y avait un risque de divergence. Okay? Et c'est pourquoi il fallait un texte témoin pour toutes les communautés. Deuxièmement, la décision des Romains d'empêcher la transmission de la tradition orale. Vous avez déjà étudié cela. On mettait à mort un rabbin si on le voyait avec deux juifs. Okay? Parce que ça voulait dire qu'il allait leur apprendre. Et il fallait arrêter la tradition. Alors on a décidé de mettre par écrit la tradition orale, mais on a décidé de la mettre par écrit sous forme hermétique. Ça veut dire qu'on ne peut comprendre que celui qui peut comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu de ce que les Grecs avaient fait de la traduction de la tradition écrite. Ils avaient traduit la Torah Shebirta, ce qu'il en était résulté, alors on n'a pas voulu que la Torah Shebaalpé tombe dans le même... Vous comprenez ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, nous sommes dans une période dangereuse pour deux raisons. D'abord, à force d'être caché, ça a été caché aussi pour les Juifs. Les Juifs eux-mêmes étudient, ils ne comprennent plus rien. À moins qu'ils aient un maître, c'est-à-dire une mémoire. Vous suivez ? Et deuxièmement, les goïms commencent à étudier. Ils viennent dans les universités, ils vont dans les salles d'études, au centre Rashi, partout, et ils disent au rabbin, apprends-moi, à Torah Shebaalpé. Et ils en font ce qu'ils en font. Et vous voyez le danger de cette... Bon, mais je crois, personnellement, quel que soit le pessimisme à l'échelle microscopique, je crois que finalement, on peut être optimiste, parce que la révélation qui éclate dans le peuple juif aujourd'hui sera d'une nature telle que ça va éblouir à les autres, ils n'y comprendront plus rien. C'est pas grave. Okay. Oui, à peu près ce que je veux dire. Alors, voilà en tout cas pour ce problème.
C'est pas un hasard, c'est le dernier mot, mais il n'y a pas de
choses. Quel dernier mot ? Ah, j'avais pas vu ça, c'est joli. Top, c'est joli ça. Et là. C'est un grand compliment qu'on fait aux gens de Safed, c'est quand on leur dit Zesfat Pitzfat Ashuya, Safed d'origine, parce que Safed se dit Sfat en hébreu. Donc, et alors, voilà donc pour la deuxième notion. La première, c'était que c'est relié à Amalek. Vous vous rappelez, Josué, Amalek. La deuxième, Josué, arrêt de la révélation. Vous voyez le problème ? C'est-à-dire l'époque est remise à sa place. Allez, c'est clair ? Bon. Alors, je vais utiliser le temps qui nous reste pour avoir un autre enseignement. Prenez cette fois la Megillah de Pourim. Un enseignement important à propos de Pourim. Ouvrez un peu, vous avez froid ou quoi ? Merci. Redemande-le-moi, D'où ça vient ça ? Non, de quel pays ? Bien, alors vous allez prendre au chapitre 2 et au verset 22. Chapitre 2, verset 22 dans la Megillah. Alors, Bet Kaf Bet, qu'est-ce okay. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous vous rappelez que Mardoché, en tant que chef de la communauté juive, faisait partie de la cour des courtisans du roi. Et puis un jour, il s'aperçoit qu'il y avait un complot qui se préparait dans la cour contre le roi. Et alors, il le fait dire à Esther. Or, précédemment, on avait appris que Mardoché avait donné la consigne à Esther de ne pas dire qu'elle était juive. Vous vous rappelez de cela? Bon, comment expliquer cela? Bon, l'explication que je vous donnerai, elle va un peu dans le sens de l'analyse qu'on a eue depuis le début. Toute cette atmosphère de clandestinité dans laquelle les juifs sont plongés dès qu'ils doivent faire preuve de loyauté vis-à-vis des lois de l'Empire. Et d'ailleurs, vous savez que cette loyauté, elle est authentique. Il n'y a pas de doute, moi j'ai vécu moi-même cela avant la guerre mondiale en tant qu'Algérien, citoyen français, et ça continue d'ailleurs encore, les juifs britanniques pour l'Angleterre, américains pour l'Amérique, il y a une loyauté du juif qui est dans une diaspora dans tel ou tel état pour les lois de l'Empire, pour les lois du pays. Et cette loyauté implique un certain camouflage. En particulier, je crois que le camouflage le plus grave qui nous est arrivé, c'est ce qui est arrivé à la Révolution française, où nous avons camouflé notre identité nationale en identité religieuse, à la manière des Goïm, confession religieuse israélite. C'est ce fait-là. C'est-à-dire, c'est comme si la fille de Rothschild devient la prochaine impératrice de France, je ne sais pas après Giscard qui sera l'empereur, et alors que Rothschild, chef de la communauté, disent à sa fille, surtout, ne dis pas que tu fais partie de la nation d'Israël, tu fais partie de la nation française, et puis si on te demande quelle est ta religion, tu dis j'ai une religion, comme toi tu en as une, moi j'en ai une. Vous voyez le camouflage, c'est clair. Et alors, on apprend dans le chapitre précédent que Esther, quand elle a été choisie reine de l'Empire, n'a pas dit qu'elle était juive. On savait qu'elle n'était pas perse, mais il y avait tellement de peuplade, et puis elle avait pris un nom perse. Et par conséquent, Esther, Ken, Esther, c'est un nom perse. Hadassah, elle s'appelait en hébreu. Ken. Et alors, voilà que lorsque Mardoché découvre le complot contre le roi, il fait dire à Esther de prévenir le roi. Et alors là, nous avons le verset Vaïvada Adabar, et la chose fut connue, ce complot contre Assuérus. Vaïvadar Adavar les Mordechai, cette chose fut connue à Mardoché, Vaïaged les Esther Amalka. Et il raconta à Esther la reine, à la reine Esther, Vatomer Esther la Melech, et Esther le dit au roi, Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Ça veut dire qu'il y a là une vertu de fidélité qui apparaît. Elle a eu le courage de dire ce qui se passe au nom de Mardoché. Elle aurait pu dire, voilà, j'ai appris. Après tout, les rois ont leurs espions, les reines aussi. Okay, si vous lisez Alexandre Dumas, vous voyez tout ce qui se passait chez les rois et les reines. Elle aurait pu dire, j'ai appris qu'il y a un complot qui se prépare. Elle dit, j'ai appris par Mardoché. Et Mardoché, lui, on sait que c'est le chef de la communauté juive. Et lorsqu'un jour le roi va se rappeler de cela, lorsqu'on lui lira les annales, parce qu'il avait de l'insomnie, vous vous rappelez? Et tout ça, c'est providentiel, évidemment, à ce niveau du récit. Alors, on lui lit les annales, et il se rappelle, tiens, oui, effectivement, j'ai été sauvé une fois par un certain Mardoché. Est-ce qu'on lui a donné une récompense? Oui, non. Bon, vous vous rappelez de cela. Et, alors, la Gemara va nous donner un enseignement à ce sujet, qui fait une unité d'enseignement pour elle-même, et que nous allons étudier, donc, à propos de Purim. C'est un des enseignements importants, à propos de Purim. La Gemara dit ceci, c'est dans la Maseret Megillah, à la page 15, si je me souviens bien. Oui, page 15A. La Gemara dit ceci, et je vais vous mettre au tableau d'ailleurs. Kol haomer dabar, beshem omro, tout celui qui dit quelque chose, au nom de celui qui l'a dit, sous-entendu la première fois, mevi geula la olam. Amen, la délivrance dans le monde. Alors, je mets ça au tableau. ne rendit pas les voyelles, mais ça va bien. Fait venir, apporte les ravis, Géoula, la délivrance, là, au monde. Kol haomer davar, tout celui qui dit, davar bechem omro, une chose, une parole, au nom de celui qui l'a dite. Mevi, fait venir, Géoula, la olam, la délivrance au monde. Et la Gemara continue, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, va tomer Esther bechem Mordechai. Et Esther le dit, au nom de Mardoché. Bon, alors nous allons, et je réfléchis, c'est une des formules d'enseignement de la Gemara les plus simples et les plus difficiles, en même temps. Quelle est la simplicité? C'est très simple, on se réfère à un événement où, évidemment, le fait d'avoir dit quelque chose au roi Assuérus, au nom de Mardoché qu'il avait dit la première fois, en fin de compte a fait venir la délivrance à la communauté juive. Okay? Mais à partir de là, qui est très simple à comprendre, la Gemara nous donne une formule générale. Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui l'a dit, peu importe quoi, okay, fait venir la délivrance au monde comme c'est arrivé chez Mordechai. Si quelqu'un cite quelque chose de la même nature que Mordechai avait dit à Esther, on voit le raisonnement. Okay, mais finalement, la formule est générale. « Kol haomer davar bechem omro ». Alors, on va essayer de réfléchir à la signification de cela. Vous y êtes? Vous avez compris la question. Okay. Premièrement, comment se fait-il que ce n'est pas une mitzvah? Comment se fait-il qu'il n'y a pas une mitzvah que lorsqu'on dit quelque chose qu'on doit citer qu'il a dit la première fois? On ne trouve pas de mitzvah comme ça. Qui pourrait expliquer pourquoi? Ah, l'honnêteté devrait faire que... Hein? Très bien, ça devrait être naturel. Mais je voudrais que vous réfléchissiez. Or, on sait bien que ce n'est pas naturel. Alors là, il y a une... Ça devrait être. Là, il y a une différence entre une mitzvah de la Torah, qu'on ne trouve pas une mitzvah comme ça dans la Torah. On comprend, parce que ça devrait aller de soi. La Torah n'a pas à légiférer pour un comportement normal. Okay? Vous vous rappelez le principe. Mais les rabbins connaissent leurs juifs. Et ils auraient dû dire, mitzvah des rabbanan, qu'il y a une mitzvah. Là, du point de vue de la halakha, il y a le fait que jamais les rabbins ne prennent une décision devant laquelle la nature humaine ne peut pas tenir. Vous comprenez? Ça veut dire, une minute, étant donné le yetzera rare de cela, de ne pas citer au nom de celui qui a dit, on risquerait d'accumuler les fautes sur les hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on préfère ne pas donner un commandement pour ne pas risquer de mettre en mirchol, en mazé mirchol, en défaut, si vous voulez, en embûche, de façon trop grave. Vous suivez ce que je veux dire? Par exemple, quoique pour chaque problème, il y a aussi une raison particulière. Parce que là, pour le mensonge, il est possible qu'on ait à mentir pour faire du bien. Donc on ne peut pas interdire le mensonge. Mais on sait très bien que le mensonge, c'est mal. Okay? Il y a un verset qui dit « Mais de bar shaker tirhak » de quelque chose de mensonger, tu t'éloigneras. Ça veut dire on s'éloigne, plus ou moins. Mais ce n'est pas dit clairement, si tu mens, tu as une faute. Parce qu'à ce moment-là, on serait plein de fautes. Mais là, il y a une raison particulière. Parce qu'il est possible d'avoir à mentir pour sauver quelqu'un. Vous comprenez? Oui, la Torah a une science exacte des possibilités. Mais là, c'est un principe bien important. Ça veut dire que, bien sûr, mitzvah midoraita, on ne peut pas trouver. Parce que ça devrait aller de soi, si quelqu'un est honnête, il est honnête. Okay? Mais mitzvah midrabanan, on aurait pu trouver. Okay? Alors, il y a pour ça une autre raison. Vous avez compris les données du problème? Okay? C'est un vol lorsque on dit quelque chose qu'on a entendu de quelqu'un. Et on le dit comme si c'est soi-même qui l'avait dit. Okay? Ça s'appelle gezel. C'est un vol. Okay? Et alors, pourquoi on n'a pas légiféré là-dessus? La première réponse de la halakha, parce que, étant donné le yetzer hara de l'homme, on risquerait d'accumuler l'effort. Alors c'est formulé de façon tout à fait autre et beaucoup plus haut. Mais celui qui a cette vertu-là, de citer quelque chose au nom de celui qui l'a dit, c'est beaucoup plus haut que qu'il a simplement un mérite. Il participe à la Géoula. Vous voyez de quelle manière cela est enseigné. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas mitzvah midérabanan? C'est parce que, en fin de compte, l'intention de la Gemara, c'est de parler de la Torah. Davar, c'est devoir Torah. Okay. Or, la Torah appartient à tout Israël. Et par conséquent, il n'y a pas de vol de Torah. Okay. C'est-à-dire, c'est pas beau de citer un enseignement de la Torah qu'on a entendu de quelqu'un d'autre, comme si il venait de soi-même, mais on ne peut pas dire que c'est un vol, parce que la Torah est efker. Je veux dire, la Torah appartient à tout Israël, et personne n'a le droit de dire cette parole de Torah que Dieu m'a donnée à moi, ça n'appartient qu'à moi. Vous comprenez le problème? Au point que la Gemara dit, si quelqu'un connaît un devoir Torah et le cache de son chaver, il l'a volé de son chaver. Parce qu'il lui appartient aussi au chaver qui est juif. Vous avez compris? Et la Gemara va beaucoup plus loin. Pas seulement devoir halakha, mais même d'arka de hara. D'arka de hara, ça veut dire le derech eretz. Si quelqu'un connaît quelque chose de sagesse, même si ce n'est pas halakha, et le cache de son compagnon d'études, c'est considéré comme s'il le lui avait volé. Pourquoi? Parce que la Torah appartient à tous, et la sagesse appartient à tous. Voilà donc pourquoi il ne peut pas y avoir de commandement obligeant à citer au nom. Bien sûr, celui qui le fait a un mérite, mais un mérite exceptionnel. Il participe à celui qui fait venir la Géoula, comme Esther a participé à la Géoula, simplement en citant qu'elle l'avait entendu de Mardoché. Et vous avez compris le problème. Okay. Ça y est, c'est clair? Donc, alors, on va peut-être, s'il me reste un peu de temps, on va un peu aller plus loin dans l'approfondissement. 3 minutes. Okay. T'as mal de tête? Alors, étudie la Torah. Comme ça, tu verras que t'as pas de tête pour avoir mal dedans.
C'est le texte qui m'a dit
Nahon, mevi, bien sûr. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, jeudi, on reprend cet enseignement. Okay? Jeudi, vous avez cours avec moi.
Oui, à
11h30. Nahon, si Dieu veut, parce que. Bon, eh bien, reposez-vous une demi-heure. Et me dites pas que vous êtes fatigué avec Abraham. Hein? Merci. Qu'est-ce que tu pensais au père? Connu de Mardoché, Vayaged le Esther Amalka, et il le raconta à Esther la reine, Batomer Esther la Melech, et Esther le dit au roi, Beshem Mordechai, au nom de Mardoché. Alors à ce propos, la Gemara, je vous remets la forme du tableau. Chez Momro, tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dite, Mevi Geoula Laolam, amène la délivrance au monde. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Vatomer Esther la Meler, Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Bien, alors je vous rappelle brièvement ce que nous avons étudié à ce sujet. C'est un principe général qui est rattaché à ce verset ou qui découle de ce verset, comme vous voudrez. Et la difficulté, c'est que, a priori, il n'y a pas de rapport entre l'événement particulier où Esther a cité ce que Mardoché lui avait dit, et effectivement, dans cet événement, le résultat a été la délivrance de la communauté juive en Perse, et d'autre part, la règle générale. Je vous avais demandé de réfléchir à cela. Okay. Bon, je vous rappelle ce qu'on a vu la dernière fois. Cette règle porte en particulier sur ce qui est vraiment une parole. Ce qui est vraiment une parole, c'est une parole de la Torah. Et c'est élargi d'ailleurs à toute parole de sagesse. Nous avons vu une fois, dans le cours général, un verset au sujet de la parole, que la parole définit la prérogative de l'homme, que la définition spécifique de l'identité humaine, c'est qu'il est doué de parole. C'est-à-dire, s'il y a une mutation dans l'échelle des êtres vivants, au niveau de l'homme, c'est l'apparition de la parole. Est-ce que nous avons parlé de cela ? Oui. Et je ne sais pas comment dire. Je suppose que je suis aussi fatigué que vous. Et donc, je ne peux pas parler. Si nous cherchons la définition spécifique de l'identité humaine, quelle est la formule que nous avons trouvée ? Adam, c'est Chayam Daber. Donc, nous avons parlé de cela. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une hésitation dans la définition, du moins une controverse. Est-ce qu'on va définir l'homme par la pensée ou par la parole ? Finalement, les deux formules existent. Et vous rattachez ça d'ailleurs aussi à l'enseignement qui est donné dans le Kuzari. Vous rappelez les différents niveaux d'être. Domem, Tzomeach, Chay, Chayam Daber, Navi. Vous rappelez deux fois. Bon. Et donc, les deux définitions possibles, c'est « ou Chayam Askil », l'être vivant pensant, ou « Chayam Daber », l'être vivant parlant. Quelle est la raison pour laquelle, finalement, la tradition juive a choisi la deuxième définition, « Chayam Daber », l'être vivant parlant ? Non, ne me dites pas des choses banales que vous pouvez dire de n'importe où, de n'importe quoi. Non, je veux savoir si vous vous rappelez du thème que nous avons étudié à ce sujet. Quelle est la différence entre la définition de l'homme par la pensée et la définition de l'homme par la parole ? C'est-à-dire, si nous cherchons le critère spécifique de la définition de l'homme, il faut donc que nous atteignions le goreb, le facteur qui le différencie des autres êtres vivants. Chai, c'est tout être vivant. Et en tant que l'homme est aussi un être vivant, il fait partie de la classe de tous les êtres vivants. Mais il a une différence spécifique. Je pense qu'au début de l'année, j'ai dû vous donner ces règles-là, non ? Écoutez, nous allons en profiter pour étudier ce problème. Quelle est la règle d'une définition ? La règle logique d'une définition. Lorsque vous voulez définir un être ou une chose, qu'est-ce que vous devez formuler dans la définition ? Oui, et comment apparaît cette définition de la caractéristique ? On va reprendre ça d'une manière différente, je crois que vous n'avez pas étudié cela. Est-ce que, qui a passé un baccalauréat de philosophie ? Oui ? Pas seul ? Et les autres, qu'est-ce que vous avez fait ? Mais dans votre baccalauréat, vous n'avez pas des études de logique ? Oui ? Bon, qui a étudié un peu de logique ? Alors, plusieurs. Bon, est-ce qu'on ne vous a pas donné la règle d'une définition ? Bon, mais on va étudier ce problème, on va en profiter, puis on prendra l'exemple de l'homme comme illustration. Bon, il faut d'abord, en général, une définition comporte deux termes, un substantif et un adjectif. On va prendre cet exemple, le vivant parlant. Avant d'arriver là, quelle est la définition de l'homme que vous avez appris en philosophie générale ? Attends, j'entends pas. Okay. L'être pensant ? Qui a donné cette définition ? Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de la définition qu'a donnée Descartes ? Animal raisonnable, ça vous dit quelque chose ? Bon. Alors, pendant que vous voyez, animal. Vous avez un substantif, que l'homme est un animal, mais ça ne veut pas dire qu'il est une bête, même pas chez Descartes. Ça veut dire qu'il est un être animé. Animal, ici, dans le sens étymologique, c'est le mot chai en hébreu.
animal, être animé, disons être vivant.
Et raisonnable, ça veut dire quoi chez Descartes?
En fait, dans cette formule,
doué de raison. Très bien, oui, que c'est très parallèle à l'autre formule, le vivant pensant.
Okay. Il se dit en hébreu, chai amaskil.
Alors, le premier terme, qui est un substantif, désigne ce qu'on appelle le genre prochain.
C'est des termes techniques de la logique. Le genre prochain, c'est la classe la plus générale de laquelle fait partie l'être que l'on veut définir. Et vous voyez, dans le cas de l'homme, la classe la plus générale, c'est qu'il fait partie des êtres vivants. Donc,